Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était devenu un acte de résistance? À chaque numéro de ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre d'un auteur qui partage avec nous sa passion de la lecture. Aujourd'hui, je n'ai pas un, mais deux invités, William Lafleur et Marie Pélan.
Quand on lit, on augmente sa conscience et ça va avec un bonheur augmenté, mais ça va aussi avec une conscience accrue du fait que la réalité est difficile et que parfois ça rend triste quand même.
Les livres ne sont pas conçus pour rendre les gens heureux, mais pour leur donner matière à penser. Effectivement, penser, c'est un bonheur immense, mais ça vient aussi avec des difficultés. C'est ça, la chute du paradis d'Adam et Ève, c'est la prise de conscience de leur propre mort. C'est le fait de penser, d'être au courant de soi-même, c'est un poids.
William Lafleur et Marie Pélan sont professeurs en banlieue parisienne. Lui enseigne l'anglais, elle les lettres modernes. Ensemble, ils viennent de publier Le Hussard Noir chez Flammarion, un roman qui puise dans leur quotidien pas toujours simple auprès de jeunes élèves pour lesquels la lecture se limite trop souvent à l'écran de leur téléphone portable. Le personnage central du livre, c'est Thomas Debord, un jeune prof a priori sans histoire qui décide un matin de prendre sa classe en otage afin d'attirer l'attention des médias sur l'incurie de l'éducation nationale. C'est le début d'un thriller passionnant, à la fois nerveux et engagé, où l'on retrouve aussi l'humour noir de Monsieur le Prof, le personnage avec lequel William s'était fait connaître en 2016 sur les réseaux sociaux. Marie Pélan, William Lafleur, bonjour.
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 Ça va, vous allez bien?
Oui, ça va, tranquille, on est en vacances,
c'est
donc
cool.
On est content.
Vous êtes en vacances, pourquoi?
Pour nous reposer.
Non, pourquoi parce que vous êtes prof.
Ah oui,
d'emblée.
Spoiler.
La colle. Bah oui, expliquez-nous un petit peu qui vous êtes tous les deux. Alors si, moi je vais vous le dire, vous êtes les auteurs d'un roman que j'ai adoré, qui s'appelle Le Hussard Noir, qui sort chez Flammarion. C'est un thriller, d'abord et avant tout un thriller psychologique. Pour moi, je trouvais que c'était un bouquin prenant. Mais il se trouve qu'il est en grande partie, alors peut-être pas totalement, je pense pas, non, mais inspiré de votre expérience de prof l'un et l'autre. Est-ce que vous pouvez expliquer à mes auditeurs votre parcours à tous les deux en tant que professeur et ce qui vous a amené à écrire ce roman ensemble?
Moi, je suis prof de lettres en lycée à Clichy-sous-Bois. Ça va être ma quatrième année là-bas. J'étais pas vraiment partie pour devenir prof. J'ai fait des études de lettres modernes, j'ai passé l'agrégation en me disant que j'allais faire une thèse. Et puis j'ai rencontré les élèves de Clichy et j'ai plus envie de repartir. Voilà, William.
Oui, donc moi j'ai eu le CAPES d'anglais. Je sais pas si j'ai été destiné à être prof, mais bon, avec une licence et un master d'anglais, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Donc voilà. Ça fait 7 ans que j'enseigne, j'ai fait beaucoup de collèges et là je suis en lycée depuis 3 ans. Et voilà, on a nourri tous les deux beaucoup de frustrations vis-à-vis de notre métier qui nous engage quand même au quotidien, mais on a tous les deux le sentiment de ne pas avoir les moyens nécessaires pour bien mener nos élèves vers la réussite. Et en fait, on échangeait, on vient tous les deux de Bretagne, on s'est retrouvés là, propulsés à Paris. Et on n'a pas beaucoup de gens avec qui parler finalement quand on est prof. On a une salle des profs où tout le monde jette sa frustration, mais il n'en est rien de très, très utile. Donc là, on discutait beaucoup de nos difficultés et on a décidé de mettre tout ça dans un roman.
Alors William, vous, on vous connaissait déjà sous votre pseudo, enfin Monsieur le Prof. Mm-hmm. C'est sur les réseaux sociaux et avec un blog qui a beaucoup fait parler. Parce qu'effectivement, avant d'écrire des romans, vous avez raconté sur les réseaux sociaux votre quotidien de prof. Alors, avec un mélange, j'allais dire, un peu à la fois comique et alarmiste, en tout cas très, très réaliste, très, très sincère. Vous avez déjà fait un roman il y a 3 ans, mm-hmm. Qui s'appelait Point Final. Qui s'inspirait aussi en partie de votre vécu. Mmh. Pourquoi en faire un autre avec une co-auteure?
Co-autrice. On dit maintenant, l'Académie...
Ou auteureux ou autrice? Je sais jamais.
Autrice,
c'est mieux. Autrice, d'accord.
Ouais. Et l'Académie a accepté ces changements, je ne sais pas si tu as vu.
Félicitations à l'Académie.
Big up. Pourquoi faire un nouveau roman avec une co-autrice? Parce que... je sais pas, c'est quelque chose qui est né de nos discussions. On a beaucoup échangé là-dessus et je sais pas, c'était Le roman me paraissait très un peu trop dur à porter pour une seule personne, donc j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider, et quelqu'un qui m'a aidé à le porter vers des directions que j'aurais pas prévues. Et voilà, on l'a construit, on l'a monté tous les deux, et c'est vraiment une bonne expérience, quoi. C'est parce que l'écriture, c'est quelque chose de très solitaire habituellement, et de parfois un peu accablant. Et là, le fait de pouvoir le porter à deux, ça nous motivait mutuellement, je crois.
Et on s'est toujours un petit peu intrigué de savoir comment ça fonctionne, l'écriture à quatre mains. Alors, on peut en parler un peu plus tard, ou même dès maintenant, mais comment ça se passe ? On fait chacun cinq pages, on fait lire à l'autre, on écrit en même temps, on mélange les deux. C'est quoi le mode opératoire ?
Sur celui-là, c'est un projet qu'on a déjà à la base longtemps mûri, parce qu'avant d'être à quatre mains, c'est à deux cerveaux. Donc, c'est vrai que, comme William l'a dit, on avait tous les deux des expériences différentes. Moi, quand je suis arrivée sur le terrain dans mon lycée, j'avais aussi beaucoup besoin de parler de quelque chose que j'avais ignoré, de réalités sociologiques qui sont propres à la ville où j'enseigne et à plein d'autres villes, notamment en Île-de-France, et qui sont invisibilisées dans le discours actuel, donc dont les gens n'ont pas conscience. Et j'en parlais à William et... j'ai senti que ça l'intéressait, que ça le nourrissait dans sa réflexion aussi pour le livre. Donc, je pense que c'est venu un peu de là, sa proposition. Puis, je lui faisais lire aussi des choses à moi de mon écriture. Donc, ça nous a amenés tous les deux à petit à petit... Alors, c'est marrant parce qu'on a fonctionné de manière très complémentaire dans l'amont du roman. Moi, je prends beaucoup de notes, je fais beaucoup de fiches de personnages. William, il recherche énormément sur Internet, il se documente beaucoup, beaucoup. Et c'était très, très complémentaire parce qu'il y a des choses qui font que j'aime pas du tout faire et je pense vice-versa. Après, le format du roman a fait que c'était plutôt simple, en fait, pour nous de fonctionner à deux. Parce que soit on s'est chargé d'un personnage qui, on l'a conçu, on s'en sentait proche et donc du coup on a assuré la plupart de ses chapitres. Soit on faisait un chapitre chacun en fonction du statut de ce qu'on allait raconter. Et puis c'est vrai qu'il y a deux ou trois chapitres qu'on a fait à deux. On a écrit, on a rassemblé et il se trouve que c'est nos chapitres préférés, je pense, quand on en discute, c'est ce qu'on a préféré, c'est les mélanges.
Ce qui est sympa, c'est la multiplication des personnages. Et comme moi, je parle de thriller, autant en littérature qu'au cinéma, mais il y a une structure, c'est une structure assez ingénieuse que vous avez mis en place. On a un personnage principal, Thomas, qui prend sa classe de Zep en otage en début de journée. Et puis, au fur et à mesure, l'histoire est racontée du point de vue du raid, d'une journaliste, des médias, des réseaux sociaux. Et tout ça est très fluide et crée une montée de tension, d'adrénaline. J'allais dire, à côté du réalisme, il y avait aussi, de votre part, l'envie de faire un bon thriller, une fiction intense, comme un page-turner, comme on dit.
Je ne sais pas si c'était l'envie, c'était de créer un thriller. C'est marrant, maintenant, on nous dit ce terme de thriller. Moi, je ne l'avais pas forcément en tête dans les faits. Mais je pense que William, comme moi, on aime bien les histoires. On a baigné dans les romans, on s'est construit dans la lecture. Et moi, j'enseigne la littérature. Donc, quand j'arrive à intéresser les élèves, c'est d'abord en passant par des histoires. Je me suis rendu compte que je pouvais faire passer des choses dures, complexes à comprendre, métaphysiques, sociologiques, dès qu'il y avait une histoire derrière. Et donc, en fait, je sais pas forcément communiquer autrement. Donc, je pense que c'est comme ça que c'est devenu un récit.
Dans notre métier, on est obligé d'agripper l'attention des élèves. Donc, je pense que c'est pour ça que peut-être inconsciemment, on a voulu faire un récit qui soit haletant. Et c'est vrai que dans Point Final, c'est déjà la structure que j'avais faite, mon premier roman. C'est tout de suite, il faut captiver le lecteur. Il y a une multitude incroyable d'œuvres qui leur sont proposées maintenant, de romans, de vidéos YouTube, de films, de jeux. Et on a un temps limité par journée. Donc comment les inviter dans notre récit, surtout dans une forme, le roman qui n'est pas très à la mode maintenant. Donc voilà, là on a un récit, il y a quelque chose d'intrigant, donc avec ce prof qui prend ses élèves en otage, il y a la multiplicité des personnages, des points de vue, il y a les tweets, tout ça. Donc tout ça, c'est quelque chose d'assez intriguant pour le lecteur. Et voilà, c'est comme ça que nous, on le prend en otage.
Alors ce podcast, j'ai l'habitude de faire... réfléchir mes élèves, j'allais dire, mes invités sur son titre. Son titre, c'est « Les gens qui lisent sont plus heureux ». Est-ce que vous êtes d'accord l'un et l'autre avec ça ?
Moi, j'aurais tendance à ne pas être d'accord.
Oui.
J'ai l'impression que les gens qui lisent vont avoir tendance à plus facilement se rendre compte qu'ils sont malheureux. Parce que je pense que quand on lit, je pense que c'est vital. De toute façon, je suis assez mal placée pour aller à l'encontre de la nécessité de la lecture. Mais je pense que quand on lit, on augmente sa conscience. Et ça va avec un bonheur augmenté, mais ça va aussi avec une conscience accrue du fait que la réalité est difficile et que bah, parfois, ça rend triste quand même.
William, vous êtes d'accord ?
Ouais, je pense que les livres ne sont pas conçus pour rendre les gens heureux, mais pour leur donner matière à penser. Effectivement, penser, c'est un bonheur immense, mais ça vient aussi avec des difficultés. C'est ça, la chute du paradis d'Adam et Ève, c'est la prise de conscience de leur propre mort. C'est le fait de penser, d'être au courant de soi-même, c'est un poids. C'est pas très motivant. Bah,
est-ce que ce roman, vous l'avez d'abord conçu pour vos élèves qui peut-être ne sont pas de grands lecteurs et auraient besoin d'une entrée un peu proche de leur réalité pour se mettre à la lecture?
Je pense que ce roman, ça va paraître très égoïste, mais moi, personnellement, je l'ai d'abord conçu pour moi. Je me sentais débordée de choses à dire. Je n'avais pas le sentiment de trouver la place de me faire entendre. En tant que prof, dans cette société actuelle, déjà, il n'y a pas vraiment voix au chapitre pour nous. On a cette réputation de tout le temps se plaindre, de tout le temps être en grève, de tout le temps avoir quelque chose à redire, et ça disqualifie une parole qui est pourtant légitime parce qu'elle est plongée sur des réalités de terrain. Et puis, en tant que prof dans des banlieues qui sont dites sensibles, je me suis retrouvée en soirée à expliquer à des amis, à des gens comment c'est d'être face à des jeunes qui sont délaissés par l'État français. Et j'ai toujours les mêmes regards contris, un peu désolés, de « Ah, c'est terrible, on les laisse tomber. » Et ce message qui passe que nous, les profs qui sommes sur le terrain, on est tous des héros et qu'on ne pourrait pas faire ce que tu fais, etc. Et ça ne m'apportait rien parce que je ne me sentais pas du tout entendue avec ce genre de réaction. Et donc, j'ai eu besoin plus d'écrire un livre qui obligerait des gens qui ne sont jamais face à ces réalités-là, qui vivent dans une certaine bulle, une bulle d'information, une bulle sociale, une bulle très protégée, de voir à quoi ça peut ressembler sur le terrain, les frustrations d'un prof. Alors moi, j'ai utilisé le biais du prof parce que je suis prof, le biais d'un prof blanc parce que je suis blanche, et que je n'allais pas confisquer la parole de mes élèves. Sinon, j'aurais probablement pris le point de vue d'un de mes élèves, parce que c'est plus eux qui ont des choses à dire aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que j'ai croisé un de mes élèves qui m'a beaucoup marqué dans ma carrière, qui a beaucoup inspiré le personnage de Bassem dans le livre. Le lendemain de la sortie du livre, il l'avait acheté. Et il l'avait lu alors que j'ai jamais réussi à lui faire lire un bouquin quand il était en seconde. Et
bah vous voyez,
ça c'était extraordinaire. Ça c'était extraordinaire pour le coup.
William, c'est la même volonté d'expression personnelle. C'est le prolongement de votre blog, livre précédent.
C'est le fait de partager une expérience. Alors c'est vrai que personnellement, pendant l'écriture, j'ai jamais pensé à mes élèves comme si c'était une œuvre à leur faire lire. Parce que à mes yeux, c'est pas vraiment le public du récit, parce que ça s'intéresse sur le vécu d'un prof, sur son regard sur l'éducation, la société, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui va un peu plus loin que leur centre d'intérêt pour l'instant. Mais après, si ça les intéresse, tant mieux. Et puis il y a le fait que quand on écrit à propos d'un prof qui pète un plomb, on n'a pas forcément envie que les élèves lisent là-dessus, ou que les parents non plus, et qu'ils se posent des questions sur le prof de leurs enfants.
Oui, parce que bon, ça ne vous est pas encore arrivé un point extrême comme dans le roman. N'empêche que ce prof, ce qu'il faut expliquer aux gens qui vont le lire, c'est que ce n'est pas quelqu'un de fondamentalement déséquilibré depuis le départ ou depuis des années. C'est quelque chose qui c'est quelqu'un d'abord qu'on ne voit pas trop, qui a l'impression de ne pas exister auprès de la société, auprès de ses collègues, auprès des élèves finalement. C'est quelque chose qui monte lentement en lui. Toutes les choses qu'il ressent, c'est les choses que vous avez ressenties à un moment donné.
Oui, je pense que ça a été très cathartique pour nous, l'écriture. On a commencé ce roman en fait par un blog du personnage qui existe donc sur Internet depuis avant la sortie du livre, où en fait on a mis, alors ça pouvait être des extraits de, d'un journal intime que moi j'avais tenu au début où j'étais arrivée, de morceaux de coups de gueule en fait qu'on avait aussi sur des événements qui se passaient où William pouvait pas forcément sur sur son Facebook ou son Twitter s'exprimer là-dessus en son nom, et donc du coup on a centralisé ça. Ce blog, il a eu de l'écoute alors que c'était celui d'un personnage fictionnel, et c'est vrai que c'était à la fois de nous, à la fois de ce qu'on entendait en salle des profs, de ce qu'on entend ressentir des collègues. On n'est pas forcément, je pense, en difficulté face à nos classes. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne ressent pas que le métier est difficile. Et c'est étonnant dans cette société où tout le monde pourrait avoir le sentiment d'avoir une tribune publique constamment et de pouvoir paradoxalement plus se faire entendre que jamais. Mais en fait, j'ai l'impression que personne ne nous entend. C'est un peu l'impression de crier dans un monde où tout le monde hurle. C'est vrai que ce sentiment-là d'avoir des choses à dire qui deviennent de plus en plus urgentes sur des sujets comme les médias et l'éducation, ça oui, c'est quelque chose qu'on partage très fortement avec notre personnage.
Il y a le constat sur le système éducatif, on pourra en reparler un petit peu tout à l'heure, mais il y a aussi dans ce livre une terrible, je ne sais pas si c'est vraiment une satire des médias, en tout cas un portrait des médias tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, y compris... les chaînes d'infos, voilà, vous êtes, on sent que vous êtes à la fois spectateur et critique. Votre personnage, il est pas très fan de Cyril Hanouna non plus. on a l'impression que les médias, il y a aucun ne porte votre parole telle qu'elle est. On a l'impression que tout est filtré et que c'est jamais fidèle à ce que vous pensez. Vous face aux médias l'un et l'autre. Vous êtes totalement désemparé, en colère. Il y a quand même des moments où vous trouvez que les médias font justice à vos problématiques, vos combats, ou est-ce que les médias ils sont complètement à côté de la plaque? Et c'est pour ça qu'il faut faire un livre.
Alors, c'est vrai que le livre s'en prend un petit peu aux médias, en général. Déjà, le terme « les médias », c'est très vague. C'est ça qu'on a voulu un peu aborder dans ce livre, c'est que c'est aussi bien BFM que Le Monde, que Twitter, que Snapchat. Et tout le monde veut s'emparer des médias et en même temps pointer du doigt les médias, parce que les médias ne sont jamais à notre écoute. Et là, donc, on a ce personnage qui voudrait faire entendre sa parole et qui est lui-même finalement pris en otage, entre guillemets, de la chaîne à l'information qu'on a maintenant avec les chaînes d'information en direct, qui nous poussent à une course vraiment effrénée à l'information, même parfois quand il n'y a rien à dire. Et c'est ça qu'on voulait mettre un peu en avant dans le livre, c'est que lui, il sait ce qui se passe dans la classe, c'est ce qu'il y est. Et toute la journée, on a les chaînes d'infos en direct qui vont donner les dernières informations totalement creuses, parce qu'il n'y a rien de plus à dire. Parce que les vraies informations, ben, c'est le RAID qui les a, qui ne veut pas les donner, etc. Et voilà, et donc on a ce besoin de meubler pour attirer l'attention des spectateurs. Et voilà, ça c'est quelque chose qu'on ressent, nous, depuis 2015 maintenant. Pour moi, c'était ça le choc, c'était l'attentat Charlie Hebdo, ensuite les attentats de novembre, où on était captivés par les chaînes d'information et qui ne donnaient pas vraiment d'informations, mais on avait ce besoin de se réunir finalement autour de quelque chose. Et voilà, c'est ça qu'on voulait mettre en avant dans le livre, ce tourbillon d'informations et de vide.
Parce que ce qui est ironique, c'est que lui-même, Thomas, dans sa classe, sur son téléphone, il regarde ce qu'on raconte sur lui. Mmh. Et il se rend compte que ce n'est pas fidèle à ce qu'il voulait exprimer. Mmh. Enfin, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais donc, à un moment donné, il est en contact avec une journaliste et il a beau essayer d'expliquer son geste, il se rend compte que tout est filtré par la machine médiatique et qu'au final, on le présente plus comme un monstre que comme un être humain. Ça, c'est un peu terrible.
Oui, c'est quelque chose, je pense, dont on a pris vraiment conscience en 2015. C'est cette facilité qu'il y a, oui, justement, à créer quelque chose qui est plus de l'ordre du sensationnel que véritablement de l'information. Et faire face à des adolescents en construction toute l'année, être avec eux et voir à quel point ils sont facilement influencés par l'image, puisque maintenant... ils se construisent uniquement par ça. Il y a une sorte de cacophonie permanente de tous les bords. Et en même temps, on va choisir les médias auxquels on va s'intéresser. Il n'y aura jamais d'objectivité, de, de recoupement. C'est compliqué de personne aujourd'hui dans l'école n'a ce rôle de former un esprit critique face aux médias. Personne, de toute façon, n'a la compétence parce qu'aujourd'hui, tout le monde en est plus ou moins victime. Enfin, on va discuter avec des gens qui sont de la même opinion que soi. On va citer les mêmes sources médiatiques et puis, au final, on tourne en rond. Et donc, de ce point de vue-là, on a aussi voulu montrer à quel point c'est facile de déformer une information. En fait, à quel point aussi c'est compliqué d'avoir un accès direct.
Ce que vous me dites, c'est que vos élèves, leur rapport au monde, il se crée uniquement à travers donc les nouveaux médias, donc les réseaux sociaux, que ce soit l'image ou le texte, mais que le livre, la lecture, enfin, l'objet livre, il est quasi absent de leur quotidien. Il y a quand même beaucoup de jeunes qui lisent. Les ventes de livres, elles ne sont pas forcément en baisse. Vos élèves, vous, ils font partie d'une catégorie qui lit très peu, qui n'a pas accès aux livres. C'est quoi le problème ?
Moi, les miens, c'est assez inégal, on va dire. Il y en a qui lisent, il y en a qui lisent beaucoup aussi de littérature adolescente. C'est vrai que c'est toujours un peu la bagarre pour les faire acheter des livres. Ils vont toujours nous dire que ça coûte cher, alors que bon, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a quand même une priorité aujourd'hui dans les foyers français pour des objets qui coûtent extrêmement cher, comme les smartphones, la télévision, certains types de vêtements. Et s'entendre dire qu'un livre à 7 euros, c'est pesant comme dépense pour une famille, ça peut avoir des côtés agaçants quand on a derrière la tête l'envie plutôt de leur ouvrir un peu les écoutilles. Le problème, ce n'est pas seulement la quantité de lecture. D'abord, ce serait la qualité, parce que c'est vrai que il y a un rapport à toute une littérature qui est normalement formatrice de l'esprit, qui va dépeindre cette littérature comme poussiéreuse. Et puis après, encore une fois, il y a aussi une manière d'aborder un livre. C'est pas le tout, en fait, de lire jusqu'à l'ivresse. Il faut aussi être capable de s'approprier ce qu'on lit. Et ça, la formation de l'esprit critique, je suis pas certaine que de ce point de vue-là, l'éducation nationale aujourd'hui remplissent son rôle, ni les médias d'ailleurs.
Mais j'allais dire, je vous provoque un peu, mais c'est votre job à tous les deux, seulement de les éduquer à l'esprit critique. Ce que vous me dites, c'est que vous n'avez pas la compétence via votre formation, que vous n'avez pas le temps de le faire parce que les programmes vous y autorisent pas, vous laissent pas le temps de le faire. Mm-hmm. Il vient d'où le problème ? Il vient un petit peu de vous et de l'éducation nationale ?
Bah, oui, il y a plein de choses qui posent problème. Par exemple, en anglais, est-ce que vous savez combien d'heures un élève de terminale fait en anglais ?
J'en ai pas la moindre idée. Je ne me souviens pas.
2 heures. 2 heures en terminale pour une langue vivante, pour sa première langue vivante. C'est une aberration.
C'est 2 heures de littérature en terminale L.
D'accord.
Ils n'ont pas de français.
2 heures par semaine ?
Oui. Et aucune autre terminale n'a de français. Alors que bon, je pense que c'est vrai. Enfin, c'est vrai que l'orthographe, c'est pas du tout indispensable hein, de ce qu'on peut voir aujourd'hui. je suis très ironique, mais ça m'agace énormément. Ouais. Donc 2 heures de littérature en TL. Ouais. Donc c'est sûr que c'est passé quand même dans un plan totalement secondaire, la lecture. De toute façon, c'est pas nouveau qu'il y ait un espèce de triomphe du rationalisme scientifique, du pragmatisme, de l'enseignement de disciplines qui vont avoir beaucoup plus d'impact sur le choix de la voie professionnelle. Ce qui fait que nous, on arrive en sciences humaines, qui sont souvent appelées d'ailleurs les sciences molles. En second plan, on est un petit peu des matières de dilettantes, de gens qui ont le temps, en fait, de gens qui n'ont pas grand-chose de plus à faire, qui ne sont pas ancrés dans le réel, qui ne sont pas à la recherche de professions qui vont gagner de l'argent. Parce que c'est ça aussi qu'on vend aujourd'hui. C'est est-ce que tu veux gagner de l'argent ? Ben, si tu veux gagner de l'argent, ce n'est pas dans les livres que tu vas trouver ta voie. Donc aujourd'hui, les gens veulent tous aller en S. Les parents encouragent ça. Et nous, on est là. Moi, je vais vous dire, la moitié de mon travail, quand je suis devant les élèves, c'est déjà de les convaincre que la littérature a sa raison d'être, qu'apprendre la langue française, maîtriser le langage, parvenir à communiquer pour se connaître soi et se faire connaître aux autres, et mieux comprendre les autres, et arriver à, ne serait-ce qu'avoir des situations de communication sereines et constructives, c'est la moitié de mon job. Et après, il faudrait que dans une année scolaire, je renseigne la grammaire, les méthodologies qui sont au programme pour le bac, et que je les fasse lire. J'ai pas le temps, j'ai pas les moyens temporels de le faire. Alors que je suis sûre que si j'utilisais les heures que j'ai en classe à juste les faire lire un bouquin et ensuite à en discuter, j'avancerais mieux. Mais je serais virée de l'éducation nationale.
Et justement, l'éducation nationale, votre hiérarchie tout simplement, elle est compréhensive ou c'est un mur quand vous expliquez ça?
Bah, à qui est-ce qu'on peut expliquer ça?
Je ne sais pas, au proviseur.
Oh, mais le proviseur, il ne peut rien. Il est lui-même soumis à tout ça. Et c'est ça qu'on voit un petit peu dans le récit. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une oreille auprès du ministère. Mais là, ça fait depuis plusieurs gouvernements successifs que les ministères font la sourde oreille. Sur la réforme du collège, les professeurs ont gueulé sur le manque de moyens alloués, la baisse du nombre d'heures en langue et autres. Non, il n'y a rien eu. Là, c'est pareil, la réforme du lycée va passer comme une lettre à la poste, alors que c'est une aberration qui mène à une compétition entre les établissements et au fait que les bacs n'ont pas la même valeur selon les établissements. Bon, nous, on essaye de crier, de hurler, on fait des manifestations, on crée des groupes Facebook comme les Stylos Rouges. Mais après, bon...
De toute façon, les parents eux-mêmes ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ça fait un moment qu'on considère que c'est aux professeurs de se battre pour les questions pédagogiques. Et donc, les parents tombent des nues quand ils découvrent le contenu des réformes et quand elles sont appliquées sur le terrain. Alors que c'est avant qu'il faut se renseigner. Parce qu'aujourd'hui, la réforme qui est proposée, c'est effectivement non seulement une réforme qui va creuser le déterminisme social et les inégalités entre les zones, mais c'est aussi une réforme qui tend à formater un esprit travailliste. Donc, elle est orientée sur l'emploi, le financier. Donc, elle laisse de moins en moins de place, justement, à la lecture, à la formation de l'esprit critique et au développement personnel, en fait. Aussi galvaudé que soit ce terme-là, c'est aussi ça.
Marie, je reviens sur quelque chose que vous avez abordé. Pour vous, clairement, vous fait comprendre que les jeunes en général qui lisent des livres, ce sont de doux rêveurs, des poètes, et que ce sont des gens qui ne seront pas capables de diriger une entreprise ou de faire de l'argent. C'est ça. En gros, le système qu'on est en train de construire, qui est en place, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est... La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on attend de l'éducation? Qui doit quand même être un pan capital de la manière dont on entrevoit l'avenir d'un pays, parce que tout le monde va passer par là, et qu'on ne forme pas juste les employés de demain, les ouvriers de demain, les retraités d'après-demain, on forme les gens avec qui on va vivre, les citoyens. Donc, qui est-ce qu'on a envie d'avoir en face de soi dans la vie de tous les jours? Qui est-ce qu'on veut voir voter? Qui est-ce qu'on veut voir construire, en fait, dans ce pays-là? Et aujourd'hui, l'éducation, elle remplit plus un rôle, justement, de mettre des élèves dans des voies de professionnalisation qui souvent sont déterminées plus par leur milieu que par les filières qui vont suivre, plutôt que de remplir ce rôle idéaliste, parce qu'on me dit souvent que c'est idéaliste de dire que l'éducation, elle doit former les gens à apprendre à se connaître et à apprendre à écrire, à apprendre à comprendre. Elle ne remplit pas ce rôle-là. Les programmes tels qu'ils sont faits ne nous permettent pas de remplir ce rôle-là.
L'un et l'autre, je pense que vous êtes un peu plus jeune que moi. Ça me fait bizarre de dire ça, mais moi, j'ai la quarantaine et j'ai le souvenir de... On va dire que jusqu'au collège, je lis beaucoup. Je lis beaucoup de livres sans a priori de genre ni de nationalité des livres. Et j'ai l'impression qu'à un moment donné, mes profs de français et l'école me met entre les mains des livres que je suis pas capable d'apprécier, de comprendre, des livres d'adultes. Et on me demande de disserter, d'étudier des textes. Et ça enlève un peu, j'allais dire, tout plaisir de la lecture, parce que ça devient un peu fastidieux, ardu. On te dit, t'as pas compris le complément du machin, comment la phrase est construite. Ça devient, et j'ai l'impression que le système éducatif ne m'a pas dégoûté de la lecture, peut-être pas à ce point-là, mais à un moment donné, il m'a donné un peu l'impression que j'étais peut-être pas assez intelligent pour lire certains livres. Et finalement, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est un peu l'objet du podcast aussi, c'est d'échanger. Et je reviens à la lecture, finalement, avec le genre, avec le thriller, avec le polar. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que je raconte là, ou est-ce que je dis que des bêtises? Est-ce que vous avez l'impression qu'on ne fait pas lire les bons livres aux écoliers, aux élèves?
Personnellement, les livres qu'on m'a fait lire au collège, au lycée, m'ont mené à écrire ce livre. Parce que, par exemple, en quatrième ou en troisième, une prof de français m'a fait lire Montserrat. Madame Tournier, merci, parce que c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Qui, c'est une question de prise d'otage à huis clos, donc voilà, on est en plein dedans. Et j'ai lu plein de livres qui étaient un peu ardus, qui parfois j'étais face à un mur, je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Et je trouve que c'est important de ne pas donner aux élèves juste ce qu'ils peuvent comprendre. Il faut leur montrer ce qui est au-dessus d'eux et il faut leur montrer comment grimper jusque-là. Parce que voilà, si on ne leur donne que de la littérature adolescente, bah, c'est bien, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qu'il y a après ? Et voilà, effectivement, peut-être que lire Madame Bovary pour des lycéens, c'est pas passionnant, mais ça peut être très intéressant de découvrir pourquoi c'est un livre majeur, qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça peut nous apprendre sur nous-mêmes. Et je me souviens, il y a un de tes élèves justement qui m'avait contacté, qui disait pour le Hussard Noir qu'il comprenait pas toutes les références, et je lui expliquais, c'est pas grave, l'important c'est qu'est-ce que ça t'apprend, qu'est-ce que ça te fait comprendre. Et les références, ok, c'est dans l'analyse, dans les cours, dans les dissertations, mais c'est pas forcément nécessaire. Là, on te demande pas de nous rendre des copies doubles.
Oui, mais justement, moi, je suis vraiment totalement d'accord avec vous, au sens où moi, je me suis construite avec les livres. J'ai pas de souvenirs qui datent d'avant le moment où j'ai su lire. J'ai respiré les livres, c'est ma vie. Et j'ai détesté les livres au lycée. Ça m'a dégoûtée. Moi, personnellement, je ne remercie pas ma prof de français de première. qui m'a vraiment fait haïr la littérature et à la prépa après, ça m'a rendu ça très indigeste. Je suis totalement d'accord sur le fait qu'on fait lire des livres avec une finalité. Donc ça, c'est vraiment très esprit capitaliste. Il faut lire le livre parce qu'il y aura une note au test de lecture, parce qu'il faudra l'avoir compris pour faire un commentaire, pour faire une dissertation.
Et le commentaire de texte.
Le fameux commentaire de texte. Les programmes sont extrêmement indigestes, ils sont très pesants. Et donc même le plus grand amoureux des livres va vraiment ressentir un sentiment de pesanteur. Et je peux comprendre ça parfaitement. Maintenant, c'est vrai que je suis totalement d'accord avec William et avec beaucoup de ce que mes collègues pensent. Il ne faut pas penser faire lire de la littérature adolescente parce que c'est plus facile, ça va aider les élèves. Les élèves, ils sont exigeants, en fait. Ils ont un appétit de découvrir si on arrive à piquer leur curiosité. Ils sentent quand on leur vend des choses démagogues, quand on baisse le niveau, ça ne les intéresse pas. Ce n'est pas la difficulté du livre, en fait, qui fait que les élèves ont moins envie de lire, c'est la manière dont on leur apporte les choses. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai une plus grande liberté en seconde parce qu'il n'y a pas cette perspective du bac, donc je prends beaucoup plus mon temps. Je suis beaucoup moins dans la quantité que dans la qualité. Et parfois, on passe un temps fou autour d'un seul petit poème ou autour d'un seul roman et décortiquer, découvrir. Alors qu'ils ont détesté ça, ils se sont ennuyés pendant la lecture. C'est fantastique. Et ce moment où je leur demande toujours, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as pensé? Parce que le livre, il est toujours écrit pour un lecteur. Il n'est pas écrit pour un critique. Il n'est pas écrit pour un élève de seconde ou pour un prof de français. À chaque fois, ça les prend de court qu'on leur demande leur avis. Et cette espèce de désarroi qu'ils ont à parler d'eux-mêmes et à donner leur avis, c'est là, à mon avis, qu'on est en train de faire une erreur massive dans cette société.
Dans vos lycées respectifs, un élève qui se balade dans la cour avec des livres ou un livre sous le bras, c'est un alien ou ça n'existe pas?
Ça arrive, moi, je ne les vois pas se balader parce qu'ils le mettent dans leur sac. Il y a une boîte à livres dans la cour, d'ailleurs, il faudra qu'on le mette à l'occasion. Je vois des élèves parfois avant le début du cours bouquiner, donc généralement, c'est quand même quelque chose d'assez rare, donc je leur demande, on en discute. C'est vrai que la plupart du temps, moi, dans les couloirs, je vois des grappes d'enfants avec leur smartphone. Et on peut passer dans le couloir et ils sont tous sur leur téléphone, les uns à côté des autres. Et bon, c'est vrai que c'est un peu tristouné, mais en même temps, moi, au lycée, je ne lisais pas non plus dans les couloirs. Donc...
Oui, moi non plus. Mais ça reste quand même surprenant quand j'en croise un avec un livre. Je regarde. Souvent, c'est des mangas. Et c'est vrai que mais c'est comme les adultes. De toute façon, on prend le métro, il n'y en a pas des masses qui ont des livres dans les mains.
Il y en a moins qu'avant.
Il y en a un par rare.
Alors, les réseaux sociaux, c'est intéressant parce que vous, William, c'est comme ça qu'on vous êtes fait connaître. C'est comme ça que vous avez commencé à vous exprimer, à vous faire entendre. En vous écoutant, on aura envie de dire que les réseaux sociaux, c'est l'ennemi, c'est le mal, que c'est vraiment dangereux pour l'équilibre des sociétés, pour nos cerveaux. C'est plus compliqué que ça. C'est plus ambigu, non?
Bon, je suis assez d'accord. Pour y avoir traîné pas mal de temps. En fait, le problème des réseaux sociaux, tout comme ce qu'on disait sur les médias tout à l'heure, c'est qu'ils nous prennent énormément de temps et d'esprit. Et ils nous poussent à une consommation sans fin. Sur son téléphone, on peut scroller, faire défiler des informations tout du long. Et dès qu'il y en a une nouvelle, elle apparaît. Donc, c'est sans fin. Et lorsqu'on coupe son téléphone, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, on a ce qu'on appelle le FOMO. C'est le fear of missing out, qui est la peur de perdre une information. Et qui fait que même quand on pose son téléphone, en fait, on se demande toujours ouais. Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce que je suis en train de rater ? Et le lendemain, au réveil, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on regarde un peu. Et on a Facebook et Twitter qui maintenant mettent en avant les contenus qui ont le mieux marché pour qu'on puisse courir à ça et donner notre avis, parce que c'est très important de donner son avis. Et tout le monde nous le demande sans arrêt. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, etc. Et évidemment, on donne son avis, on se fait clasher, on a envie de savoir ce que l'autre a répondu. Et c'est sans fin, c'est sans arrêt comme ça. Et les élèves sont baignent là-dedans, ils baignent dans cette culture de l'information sans fin, dans cette culture du clash sans arrêt, les clashs entre rappeurs, les clashs entre politiques, ouais. Les clashs entre journalistes. On baigne là-dedans. Et donc, effectivement, ça peut être surprenant, moi qui suis sur les réseaux sociaux depuis un certain temps et qui me suis fait connaître là-dedans, de pointer ça du doigt. Mais... Bon, je trouve ça assez... Ça empoisonne l'atmosphère, je trouve.
De toute façon, peut-être qu'on va atteindre un seuil de saturation les uns et les autres.
Je pense.
Peut-être qu'il y a une forme de décroissance des réseaux sociaux qu'il faut imaginer.
Il y a déjà, je crois, une prise de conscience sur le temps qu'on passe sur nos téléphones portables, notamment qui a été révélée par Apple et Facebook. Ils incluent maintenant sur leur téléphone, les Apple, le temps qu'on passe sur son téléphone. Et Facebook aussi, dans l'option, on peut voir combien de temps on a passé sur Facebook. Rien que ça, ça montre qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche un petit peu. Et les élèves, c'est vrai que ça commence à germer, parce qu'ils voient aussi leurs parents qui sont tout le temps sur leur téléphone. Ils voient les profs qui, à la récréation, sont sur leur téléphone, qui parfois, pendant un cours...
Pendant un cours aussi. Moi, je vois une énorme différence entre ceux que j'avais il y a 3 ans et ceux de maintenant. Ceux de maintenant, ils ont eu un téléphone encore plus tôt. Donc, ils se sont construits directement avec, dans cette identité virtuelle qu'il y a. Et justement, effectivement, dans cette culture du clash, ils sont plus en relation les uns aux autres sur le virtuel, alors qu'ils sont dans les mêmes classes. Et effectivement, depuis quelques temps, j'entends dans leur voix, ça revient souvent, ce discours de « ils se sentent esclaves ». Ils se sentent dépendants, ça leur pèse, ils savent pas du tout comment gérer ça, mais ils sont conscients, alors qu'ils sont très jeunes, que c'est pesant pour eux. Donc oui, peut-être qu'on va s'acheminer vers quelque chose qui tiendra de l'ordre de la décroissance et de la rationalisation de notre rapport à ça. Après, moi, j'ai discuté avec un éditeur de la maison Le Tripode, qui disait que lui, il voit tous les gens sur leur portable et que ça va servir à rien d'essayer de lutter contre ça. Qu'il va falloir apprendre en fait à utiliser cet instrument-là pour justement promouvoir autre chose autrement, que ce soit dans la communication les uns avec les autres ou dans la lecture. Lui, il essaie de mettre en place des initiatives qui passent par le portable. Donc je pense que on pourrait avoir tendance à essayer de lutter contre ça, contre les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout dessus. J'ai énormément de mal. En ce moment, je n'ai pas de portable depuis 15 jours et c'est la libération.
Comment fait-elle ?
C'est le bonheur.
On se donne rendez-vous là, pour venir ici. On a dû dire à tout à l'heure, on se retrouve ici.
Et du coup, je suis obligée d'être ponctuelle. Donc, c'est incroyable. Mais c'est vrai que moi, j'aurais tendance à vouloir lutter contre, à vouloir tous les jeter. Mais en fait, ça ne servirait à rien. Et je pense qu'effectivement, il va falloir qu'on ouvre ce débat de... Comment faire de cet instrument, qui doit rester un instrument, quelque chose qui va dans le sens d'un idéal intellectuel et pas d'une médiocrité.
Malgré tout, qu'est-ce que ça fait du bien quand on éteint son téléphone complètement, hein, pas juste le poser, hein, l'éteindre complètement, qu'on l'entend pas vibrer, rien du tout, et qu'on prend un livre et qu'on se met à lire. C'est presque encore plus jouissif qu'il y a 3-4 ans, non, en ce moment.
C'est vrai. Puis ça change totalement le rapport au temps. D'un seul coup, on n'est plus à regarder les secondes qui s'égrènent. On perd très vite la notion du temps quand on regarde un portable. Mais c'est étrange, on se rend compte qu'on a perdu du temps quand on relève la tête et qu'on regarde sa montre. Mmh. Alors que dans un livre, il y a quelque chose... Le temps se distend, ça devient plus doux comme écoulement. On prend plus son temps, c'est reposant. Et oui, c'est vrai que c'est assez bien, ça soulage, quoi.
Bon, William, Marie, qu'est-ce qu'on lit ? Je veux dire, qu'est-ce qu'on écoute ? Non, je ne vais pas vous demander votre playlist, je vais vous demander votre booklist. Qu'est-ce qu'on lit en ce moment? Qu'est-ce que vous nous recommandez? Qui se lance
Alors, en ce moment, je suis en train de lire une BD qui s'appelle « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres ».
Ah oui,
une couverture avec une femme à la peau bleue.
C'est d'Emile Ferris.
Ah ouais. Oui, c'est ça. Et donc, j'en ai lu le premier quart, là, et c'est très prenant.
Ça parle de quoi?
Alors, c'est le récit d'une petite fille, c'est décrit de son point de vue, qui vit à Chicago, dans les années 70, je crois, ou 80. Et la dame du dessus se fait assassiner dans son appartement, mais alors que toutes les portes sont closes, toutes les fenêtres sont closes, et on ne sait pas comment. Donc, et on découvre ce quotidien, voilà, chargé un peu de mystère et de monstres. Et
c'est entièrement au stylo bic.
Et en plus, c'est fait au stylo bic.
Par comme, quelqu'un qui a perdu l'usage de sa main avec laquelle elle dessinait et qui a dû réapprendre avec l'autre main.
Je ne savais pas que tu le connaissais.
C'est vraiment super. C'est la maison Toussaint L'Ouverture, comme maison d'édition.
Et Marie, vous, qu'est-ce que vous nous recommandez en ce moment?
Alors moi, en ce moment, je suis sur 3 livres en même temps.
Ah, vous faites partie de ces gens. Il y a quelques jours, j'ai le précédent épisode de ce podcast, avec un de mes confrères de la radio, Bernard Lehu, je lui demandais un peu de me parler de son métier de journaliste, et je lui disais, moi, je lis tout le temps, j'ai toujours 3 livres en même temps. Il dit, moi, c'est impossible, c'est un par un.
Ah ouais.
Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec moi-même, en ce moment, sachez-le. C'est simplement qu'en fait, j'ai des trajets très longs pour aller à Clichy. Je fais plus d'une heure aller, plus d'une heure retour. Et donc, quand j'arrive à la fin d'un livre, je sais que ça va être trop court pour mon trajet, donc j'en prends un nouveau. Et donc, en ce moment, je lis l'excellentissime Sorcière de Mona Chollet, qui est un essai... sur les sorcières et la place de la femme dans la société, qui est vraiment très, très éclairant. Et je viens de finir L'homme qui savait la langue des serpents, d'un auteur dont j'ai honteusement oublié le nom, et qui a un très, très bon livre estonien sur la question de la modernité, justement. Qu'est-ce que c'est de lutter contre la modernité? Est-ce qu'on peut vraiment lutter contre l'installation de la modernité? Et aussi une critique un peu satirique de l'idéalisation du passé. C'est un livre qui est à la fois très très drôle et très sombre, et voilà, que j'ai beaucoup aimé.
Vous aimeriez faire de ce roman un film ou une série? Ça serait intéressant de l'adapter?
Avec Gérard Depardieu ou rien, quoi.
Voilà, c'est ça. Avec Philippe Catherine ou rien.
Ah ouais, Philippe Catherine.
C'est notre dieu, Philippe.
Dans le rôle de Thomas Debord?
Ouais, ou dans tous les rôles. Je pense qu'il pourrait faire tous les rôles. Je pense que moi, idéalement, mon rêve, ce serait de... J'ai un rêve dans la vie, c'est de faire du théâtre avec William. Donc, j'aimerais bien l'adapter en pièce de théâtre avec William et Philippe Catherine, deux de mes personnes préférées.
D'accord.
Mais voilà, un film, je sais pas.
Bah, en fait, je pense que... C'est vrai que beaucoup de gens nous disent ça, ça serait bien à l'image. Je pense que c'est lié surtout à l'écriture de
la
Marie.
La structure aussi.
Et à la structure. Pour un film, je pense que ça serait trop restreint, mais une série avec un épisode par personnage. Moi, je sais que j'ai été très marqué par Lost, c'est une de mes séries préférées. Ensuite, il y avait Heroes qui était certes moins bien, mais qui avait la même structure avec un épisode égal à un personnage. Et là, c'est vrai qu'on pourrait avoir une structure similaire, à voir si ça tiendrait debout et si Philippe Catherine est dispo. Quoi, mais...
Bon, on lance l'appel et puis voilà. On s'en reparle dans quelques semaines, quelques mois.
D'accord.
Ok, merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci, à bientôt.
C'est la fin de ce podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux. D'ici là, n'hésitez pas à le liker, le partager sur vos réseaux sociaux et vous y abonner sur votre plateforme préférée. Si vous voulez retrouver les titres des livres évoqués par William et Marie, rendez-vous dans les notes de cet épisode. À bientôt et bonne lecture !